Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. C'est la 374e émission de Dans ma bulle. De passage à Saint-Malo pour l'édition 2024 du festival Quai des Bulles, Jérôme Alki revient au micro de Fred Michel sur sa découverte des animes japonais dans les années 80 à la télévision française, mais aussi sa rencontre avec Leiji Matsumoto suite à la reprise d'Albator et de Masami Kurumada pour la déclinaison de Saint Seiya en 5 volumes aux côtés d'Arnaud Dolen. Une interview passionnante.
Et bonjour Jérôme Alquier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle, toujours depuis le festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Donc vous êtes l'auteur avec Arnaud Dolen de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque chez Kana. D'ailleurs, à Saint-Malo, vous avez droit à une belle exposition.
Absolument. On a découvert ça parce que je ne l'avais pas vu avant. Je n'avais pas travaillé sur l'exposition elle-même. C'est mon éditeur et l'organisation de Saint-Malo qui a choisi les planches et tout. Donc j'ai eu la chance de la découvrir tout à l'heure en rentrant de la médiathèque après une petite conférence que j'ai animée là-bas.
Donc une belle surprise.
Oui, c'était une belle surprise, ouais, parce que le choix des images était très très bien. De l'impression sur micro perforé comme pour que ça puisse être dehors, que ça résiste au vent et à la pluie, qui sont quand même plutôt fréquents ici, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Et c'est pas une rumeur, c'est vrai.
Ouais, c'est pas une rumeur. Mais moi, je suis venu de Marseille hier. J'ai pris l'avion à Marignane. J'ai encore les lunettes de soleil dans les cheveux.
Je
ça
confirme,
se voit pas
oui,
en
je
radio,
crois.
Mais voilà. Et c'est vrai que je suis surpris quand j'arrive ici.
Et donc, c'est la première fois que vous venez à Saint-Malo
oui.
Et à Quai des Bulles.
Oui. C'est une magnifique ville. On a la chance en plus de faire cette interview-là dans l'enceinte des murs. Donc c'est très très beau et j'ai pas trop eu la chance de visiter hier quand je suis arrivé. Et du coup, je me suis levé très tôt ce matin, rien que pour aller faire un petit tour dans les ruelles encore nocturnes et assez désertes de Saint-Malo avant que le gros des festivaliers arrive. Et c'est magnifique.
D'autant plus que cette année, le manga est vraiment mis à l'honneur parce que voilà, Kana est invité également Pika et vous avez un espace réservé au manga cette année. C'est une première au festival.
D'accord. On est ravis d'être là en tout cas. C'est, je crois en effet, pour mon éditeur, la première fois qu'ils viennent sous le label Kana. Alors peut-être qu'ils étaient là présents avec les autres membres du groupe d'Argo, du Puy Lombard, je suppose. Mais en tout cas, pour Kana, c'est la première fois. On est ravis d'être là. On est venu en plus avec un petit bout du temple grec des Chevaliers du Zodiaque qui nous accompagne quand la place le permet. Avec des colonnes, un bel accueil pour le public visuel, avec une grande bâche derrière. Donc c'était une très très bonne journée de dédicace.
Ouais, je suis passé à plusieurs reprises là dans la bulle manga et le public est au rendez-vous. Hein.
Le public est au rendez-vous pour la bulle manga de manière générale parce que le manga, tu le sais, hein, c'est devenu le plus gros format de BD vendu en France depuis 2 ans maintenant, et ça attire toujours davantage de monde. C'est vraiment pour tout le monde, quoi. C'est multigénérationnel. Pas croire que c'est que la jeune génération qui s'intéresse au manga. Tu le sais certainement mieux que moi, mais voilà, c'est bien de le préciser, parce que vous avez des mangas pour tous les âges, et c'est bien de voir cette bulle qui, je suppose, va grossir avec le temps. Elle est encore petite pour le moment, parce que c'est une première.
Et c'est bien.
Mais elle devrait grossir, et c'est très bien comme ça, oui.
Et justement, ton public, il se compose de quel type de personnes? Des jeunes, des moins jeunes? Parce que forcément, on est tous dans une tranche d'âge où on a connu les Chevaliers du Zodiaque. Toi, tu reprends cette série. Donc, est-ce que tu as à la fois les parents qui sont quarantenaires et les enfants?
Ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai même pas besoin de répondre, puisqu'en fait, tu donnes déjà les réponses dans la question. C'est ce qui se passe en fait sur Saint Seiya. De manière générale, dans la collection classique, là, qui a été initiée avec Albator, que j'avais fait il y a quelques années, qui a été ensuite continué avec Goldorak de toute une équipe chez Kana, et puis maintenant sur Saint Seiya, on se rend compte qu'en fait, clairement, le public cible de base, celui sur le papier, c'est les gens qui ont connu le dessin animé dans les années 80, qui ont grandi avec et qui veulent retrouver un petit peu leur Madeleine de Proust, soit de Récréa 2, soit du Club Dorothée, puisque c'était les émissions phares les épisodes phares de ces émissions. Mais on se rend compte que finalement, c'est transgénérationnel. Les jeunes que nous étions dans les années 80 sont aujourd'hui en âge d'être parents. Et de fait d'avoir été passionné de ça quand ils étaient enfants, et bien ils ont envie de le transmettre. D'autant plus que le manga aujourd'hui est très connu dans la jeune génération. Donc ça permet comme ça un contact transgénérationnel entre les parents qui découvre un petit peu ce qu'aiment les enfants aujourd'hui avec les dessins animés modernes et qui, en retour, leur font découvrir ce qui les passionnait quand ils étaient enfants. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Je te donne une petite anecdote comme ça, mais ça arrive souvent que je me retrouve avec des enfants dans la file d'attente qui ont un album, qui regardent un peu à droite à gauche, pas forcément très intéressés par ce qu'on présente. Je comprends que c'est pour papa, maman ou voilà, pour la famille, et qui après, en fait, pendant la file d'attente, finissent par lire et en achètent un pour eux. Et j'en ai deux à dédicacer parce qu'il me dit, bah, en fait, j'étais venu pour dédicacer pour mon papa, pour ma maman, et je trouvais ça super chouette, et donc j'en ai pris un pour moi. Donc vraiment, il y a ce phénomène d'extension, d'enrichissement du public, pas uniquement lié au public cible qui était celui de départ des années 80.
Et à votre avis, pourquoi ça marche toujours ?
Parce que c'est génial, parce que les codes sont absolument hyper efficaces en fait. Tu as le côté shonen, parce que là on parle vraiment de shonen, c'est-à-dire les BD pour ados quoi. Nous on était des ados quand on regardait ça. Il y avait des valeurs qui étaient mises en avant, mais qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'était le courage, l'amitié, le dépassement de soi, avoir plein de difficultés, tomber et se relever. C'est la recette de tous les shonen, ceux d'aujourd'hui, de One Piece, Naruto, Demon Slayer, tout ce qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, ça marche comme ça.
Et ceux de demain aussi, sûrement.
Et ceux de demain comme ça aussi. D'autant plus que ceux qui construisent ceux d'aujourd'hui ont grandi avec ceux d'hier, s'en sont nourris, s'en sont inspirés et ont envie de le faire revivre. Alors, en racontant des histoires différentes, en racontant des histoires peut-être plus modernes, dans l'ère du temps qui est un petit peu plus celui d'aujourd'hui. Mais malgré tout, les valeurs qui sont mises en avant restent les mêmes. Et c'est ça qui fait que c'est absolument intemporel, quoi. Albator, par exemple, bon, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Senseiya parce que c'est l'actualité, mais je me rends compte qu'Albator est vraiment un phénomène très intemporel, d'autant plus qu'il y a des thèmes qui sont abordés à l'intérieur, qui sont des thèmes, moi, quand j'étais enfant, je les voyais pas vraiment, comme l'écologie. Sur Albator, notamment le Albator 78 que j'ai traité avec Mémoire de l'Arcadia. Déjà, c'est pas un shonen classique dans le sens où il y a pas des gentils et des méchants. C'est un petit peu plus compliqué. Albator est un peu comme un paria, c'est un peu le Dark Knight Batman, quoi. Celui qui est poursuivi par la police et qui est très attachant. Très attaché aussi à un petit personnage qui s'appelle Mayu, Stélie en français, qui est sa filleule, qui justifie aussi la présence d'Albator autour de la Terre et qui s'en avait pas très loin, quoi. Et tout ça, tu rajoutes le côté écologique avec la menace qui est la menace extraterrestre d'un groupe de femmes qui vivent en fait en symbiose parfaite avec la nature, qui sont venues sur Terre bien avant l'apparition de l'homme, etc. C'est vraiment une métaphore de la nature qui cherche à reprendre ses droits là où l'humain a fait n'importe quoi avec. C'est clairement affiché pour remettre Matsumoto, mais c'était avec 40 ans d'avance, quoi. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui pour nos enfants sont très présents. Parce que l'écologie, ils en parlent tout le temps et on baigne dedans et c'est important. Mais moi, quand j'avais 40, enfin, il y a 40 ans, quand j'avais leur âge.
C'était avant-gardiste.
C'était totalement avant-gardiste. Alors, le Japon a toujours été très, très proche de ça. Je pense qu'ils ont eu aussi des terribles conséquences écologiques dues au bombardement ou ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était un thème qui était très, très présent pour Matsumoto et je suis ravi aujourd'hui qu'on parle d'Albator autrement comme un simple pirate, mais avec toutes ces valeurs-là aussi qui sont mises en avant.
Alors justement, vous parliez de votre découverte de Chevalier du Zodiaque. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque ?
Alors, je suis né en 75, moi, donc j'ai grandi avec Recrea 2, donc Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, évidemment Albator aussi, même si toutes les séries que j'ai dit ne viennent pas de Recrea 2, mais disons que c'est l'ère Recrea 2. J'ai pas trop grandi dans la tête, donc j'avais 12-13 ans quand le Club Dorothée est arrivé sur TF1. Et donc j'étais toujours fan de ces dessins animés-là et j'ai voulu découvrir ce qui arrivait nouvellement. Donc c'était les Chevaliers du Zodiaque, bien sûr, qui étaient le fer de lance à l'époque. Il y avait un peu de Dragon Ball, il y avait Kano Survivant, il y avait Juliette Je T'aime, etc. Mais c'était quand même les Chevaliers qui étaient...
En haut de l'affiche.
Ouais, voilà, clairement, hein, c'était eux qui
trustaient tout.
Qui trustaient tout, voilà. Lorsque la série s'est terminée en diffusion inédite, forcément, les rediffusions étaient moins intéressantes pour les gens parce qu'ils connaissaient un peu, donc ils sont allés vers d'autres licences comme Dragon Ball Z à ce moment-là. Mais Senseiya a été, enfin, les Chevaliers du Zodiaque, pardon, je dois l'appeler comme ça parce qu'on savait pas du tout que ça s'appelait Senseiya. C'était un dessin animé japonais pour nous et pas du tout une BD ou un manga ou quoi que ce soit. On savait même pas ce que c'était que les mangas à l'époque.
Comme beaucoup de dessins animés de l'époque.
Ben oui, comme beaucoup de dessins animés, mais on ne savait pas ce que c'était. Mais on y reviendra peut-être quand on va parler de la collaboration avec le Japon. Pour nous, on a connu les Chevaliers du Zodiaque avant de connaître Senseiya. Et donc, on prend ça de visu et on trouve que c'est épique, avec des musiques absolument incroyables, des couleurs chatoyantes, des armures étincelantes, etc. Donc moi, pour l'ado de 12-13 ans que j'étais, j'en avais plein les mirettes. Comme j'aimais dessiner, ben, j'aimais les refaire. Comme j'aimais les refaire, j'aimais les regarder et ainsi de suite, quoi. Ma toute première BD des Chevaliers, elle date de mai 88.
Ah, c'est précis.
Premier épisode des Chevaliers, c'était le 6 avril 88, pour parler précision. Dès l'épisode 7 ou 8, j'étais tellement passionné que j'ai commencé à faire une BD personnelle, tirée des épisodes que je voyais à la téloche, quoi.
Tous les personnages des chevaliers.
Ouais, il y avait les chevaliers, bien sûr, dedans. Et bon, c'était pas du tout dessiné comme je fais aujourd'hui, hein, tu t'en doutes bien, hein, j'avais 12-13 ans. Mais ouais, j'étais passionné de ça dès le début. Et donc, depuis 35 ans, je dessine les chevaliers.
Et ils vous ont pas lâché, en fait?
Non, ils m'ont pas lâché. Je les ai pas lâchés et ils m'ont pas lâché, en fait. C'est vrai que il y a eu plein de moments. Bon, forcément, tu t'intéresses à d'autres choses, tu découvres d'autres choses, donc tu t'en éloignes un petit peu. Mais il y a toujours eu un moment ou un festival où il y avait un invité correspondant à l'histoire des chevaliers qui était présent et qui me redonnait un coup de boost de passion pour ça. Elle s'est jamais éteinte, hein. La flamme était même pas vacillante, on va dire, hein. C'était vraiment une flamme très prenante, mais ça montait à des paroxysmes incroyables dès que j'avais la chance de rencontrer quelqu'un qui avait participé à cette série originale. Et puis dans les années 90, c'est là qu'on a appris qu'il y avait un manga à la base, quoi. Que avant d'être une série télé qu'on regardait, avant de s'appeler Les Chevaliers du Zodiaque en France, ça s'appelait Senseiya au Japon. Dessiné par un certain Masami Kurumada, que je connaissais pas non plus. Et donc voilà, j'ai découvert les mangas, étonné par la différence graphique entre le manga et l'animé, parce que c'est pas tout à fait la même manière de dessiner, mais complètement happé par tous les tomes qui n'avaient pas eu d'adaptation animée à l'époque. Et j'ai été totalement fan.
Et alors, quand vous avez su que vous alliez adapter cette œuvre grandiose, magistrale, vous deviez être complètement fou.
J'étais complètement fou. Alors, la première, ça a été Albator, qui est aussi mon deuxième plus gros amour avec Senseiya. Donc forcément, déjà, je le dis tout le temps, hein, je suis désolé, je me répète un petit peu, mais sans commune mesure, sans chercher à me comparer avec la personne que je vais citer, tu t'en doutes bien, j'ai pas le quart du tiers de son talent. Mais quand t'as été OK pour faire Albator, j'ai Peter Jackson à qui on dit, tu fais la trilogie du Seigneur des Anneaux, quoi. Moi, Albator, c'était mon personnage culte avec les chevaliers.
Le Graal, c'était le Graal.
C'était le Graal, voilà, c'était le Graal. Et donc, c'était incroyable, quoi, de faire une BD sur Albator. Donc, c'est un bonheur immense. Et en même temps, c'est une grosse responsabilité parce que tu vas travailler avec l'auteur original. Alors, on en parlera certainement, mais voilà, tout est validé par l'auteur original. Donc, Leiji Matsumoto en ce qui concerne Albator. Et il faut absolument que ce soit... pas parfait, ça n'existe pas, mais le plus proche possible de, et l'image que lui a de son personnage et l'envie qu'il a aussi de voir perdurer sa licence au-delà des contrées japonaises et tout. Donc c'était une grosse responsabilité. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça et alors je l'ai pris avec beaucoup de plaisir.
Vous aviez
avec
des
plus de stress pour Senseiya que pour Albator.
Des doutes?
Des doutes, ouais. J'avais peur que ça ne plaise pas forcément à mettre Matsumoto pour Albator. J'ai vite été rassuré parce que il a été absolument génial, hein, la collaboration avec Matsumoto.
Et vous l'avez rencontré, Matsumoto?
Ouais, on s'est rencontré, ouais. Il est venu à Paris pour faire la sortie de l'album, en fait. Bon, c'était un hasard de calendrier, mais ça correspondait à la sortie du tome 1. Et c'était merveilleux. On s'est rencontré grâce à nos éditeurs. La première fois, j'ai eu la chance d'aller lui faire dédicacer quelque chose et de me présenter. Il était très heureux de me rencontrer. Moins que moi dans l'autre sens, mais il était très content de me rencontrer. Et le lendemain, il m'a fait la très très bonne surprise, je m'y attendais pas du tout, à venir sur mon stand de dédicace, qui était vraiment tout décoré Albator. Il y avait le trône de l'Arcadia, il y avait la barre de l'Arcadia pour se mettre derrière, prendre des photos. Il est venu avec son album, il est venu se faire dédicacer son album d'Albator. Donc il y a toute la séquence vidéo qui existe, il y a les photos d'ailleurs qui est à l'arrière du deuxième tome. C'était un moment magique, quoi, de me voir en train de dédicacer un Albator pour Leiji Matsumoto. C'était incroyable. On a mangé ensemble le soir, donc on a pu avoir aussi trois rencontres très, très différentes. La dernière étant plus intimiste au resto, de parler de sa vie, de parler de... C'était très intéressant parce que Matsumoto, en fait, son œuvre, qui est très, très imaginative, est malgré tout très, très... On prend énormément de choses de sa propre vie, en fait, de toutes ses expériences de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un enfant de pilote kamikaze, maître Matsumoto. Donc il a baigné avec toutes les histoires de la Deuxième Guerre mondiale que les amis pilotes de son père pouvaient lui raconter et tout. Et ça se ressent énormément dans toute son œuvre.
Oui, il écrit plein de choses.
Oui, oui, que ce soit Cockpit, même Waga Seishun no Arcadia, donc Arcadia de ma jeunesse, qui présente un Albator de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale comme pilote allemand. On sent vraiment, voilà, qu'il y a beaucoup beaucoup de vécu dans l'œuvre de Matsumoto, sa passion pour l'espace, enfin pour l'aéronautique. Bon, ça on l'a parlé avec son papa, mais aussi pour l'espace. Son frère travaillait, alors désolé pour le terme, c'est la NASA japonaise, je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais du coup il avait travaillé avec son frère pour designer des petits modules pour aller sur Mars. Il a designé plein de trucs, hein, en rapport avec l'espace, donc c'est génial. Et donc faire pour lui un capitaine Albator, enfin Harlock là-bas au Japon, c'était, ouais, la continuité de ses goûts, de ses plaisirs, etc. Et d'avoir la chance de le rencontrer, de discuter de toute sa vie, de la manière dont il a créé tout ça, c'était une chance inespérée. Et ça a été un grand bonheur que j'ai su savourer, d'autant plus aujourd'hui qu'il nous a quittés.
Il nous a quittés au début de l'année.
Il nous a quittés au début de l'année et ça a été, je dis toujours ça, c'était pas quelqu'un de ma famille, quoi. Et j'ai eu une peine incroyable parce que j'avais perdu quelqu'un avec qui j'avais travaillé pendant 4 ans, quoi. Alors lui, il m'envoyait des petits messages de temps en temps pour nous soutenir. Il a été vraiment formidable pendant le projet, des super messages de soutien pour dire à quel point il sentait qu'on était passionné par son œuvre, pour mettre autant de plaisir, autant de passion dans ce qu'on faisait. Et vraiment, c'était un véritable soutien et un œil bienveillant sur tout le projet. Mais il m'envoyait ça de temps en temps, donc il devait penser à moi de temps en temps. Moi, je vivais avec lui pendant 4 ans, puisque chaque dessin, chaque case, chaque bulle, chaque texte que je faisais dans... Je faisais tout en plus sur Albator, je faisais aussi le scénar. Donc chaque truc que je faisais, j'avais l'impression d'avoir Matsumoto au-dessus de mon épaule pour regarder ce que je faisais. Et donc vraiment, j'ai vécu moi-même dans ma tête pendant 4 ans avec lui, et ça m'a vraiment... Ouais, j'ai pas pu bouger pendant toute la journée quand j'ai appris ça le matin, jusqu'à ce que j'arrive à faire un petit quelque chose sur internet pour lui rendre hommage, où là j'ai dit bon, ça y est, la journée peut commencer. Et j'étais pétrifié de cette disparition.
Et pour Saint Seiya, votre prise de Saint Seiya, vous avez travaillé avec Masami Kurumada?
Alors on est pareil, c'est le même cas de figure. Donc on travaille évidemment avec l'auteur japonais Masami Kurumada, comme tu as dit. On travaille aussi avec il n'est pas seul, en fait. Il n'y a pas que l'auteur en face de nous au Japon, il y a aussi son éditeur papier. Et le fait est que c'était le même éditeur papier que pour Albator. Donc on a pu travailler sur Saint Seiya parce qu'on avait fait Albator avant, je pense. Ça a été une bonne carte de visite. L'éditeur japonais a su comment on travaillait, il voyait bien le respect qu'on avait pour Maître Matsumoto, le respect qu'on avait des remarques qu'il faisait, des corrections qu'il y avait à faire, le respect des deadlines, le respect de son univers, etc. Donc ils étaient parfaitement en confiance avec nous sur le travail qu'on pouvait fournir, et ils savaient qu'on voulait travailler sur Saint Seiya. Ils disaient, écoutez, nous-mêmes on travaille avec Maître Kurumada, si vous voulez, on va lui montrer ce que vous avez fait sur Albator, et on lui pose la question, et 10 minutes après, c'était signé. Voilà, donc c'était
rapide.
Ouais, parce qu'il a vu ce qu'on avait produit, il a compris que voilà, on était des passionnés. On cherche pas à faire briller nos noms de petits français.
Ils sont tout petits sous le
ouais,
titre.
Ouais, ils sont petits, et nous, ce qui est le principal, c'est de faire briller la licence. Je vais te raconter un petit truc qui m'est arrivé ce matin là. Quand j'ai fait la balade pour découvrir, je suis tombé devant une librairie. Bon, un peu égoïstement, j'ai regardé si sur la devanture de la vitrine, est-ce qu'il y a Saint Seiya, quoi. Et puis je ne l'ai pas vu. Alors j'avais en face de moi des One Piece, j'avais Solo Leveling, j'avais au côté manga, puis j'avais du Black et Mortimer, j'avais du Tintin, j'avais un dernier Astérix, là. Et puis je dis, ah bon, c'est dommage, il n'y a pas Saint Seiya. Puis j'ai levé la tête, et en fait, il était complètement en haut, en énorme, en tête de gondole, quoi, le truc gigantesque. Et en fait, j'ai été hyper, hyper heureux. Je me suis étonné à. Je ne dis pas ça, tu vois, pour me la raconter, quoi. Vraiment. J'aurais pu ressentir une fierté personnelle en tant qu'auteur de dire waouh, c'est cool, je suis mis en avant. Et en fait non, c'était le voir marqué Saint Seiya au sommet de la pile.
Et toi, tu as vu
Saint Seiya? Ça me replongeait quand j'avais 13 ans et que j'ai rentré dans les magasins, les librairies, où je voyais des Dorothée Magazine, des choses comme ça, où je voyais que Saint Seiya était cartonné. Et ça m'a tellement fait plaisir, je suis tellement fan de la licence, que ça m'a fait plaisir pour toute la communauté de voir que Saint Seiya, au travers de Time Odyssey, mais au travers d'autres albums, peut être remis sur le devant de la scène et passionnant encore les gens. Les volumes de vente sont quand même relativement importants, donc ça prouve que le plaisir, la passion des gens, c'est pas éteinte avec le temps, quoi. Elle continue à être très vivace. Et puis c'est un sentiment qu'on a beaucoup quand on est en dédicace et qu'on discute avec les gens. C'est le seul moment justement où on peut être avec eux. C'est génial de voir à quel point ils sont encore à fond derrière ça, quoi. C'est une part de leur jeunesse, mais pas que. C'est pas juste, allez, je fais la Madeleine de Proust. Il y a encore une vraie passion qui est présente parce qu'ils ont, ça les a aidés à grandir, ça les a aidés à leur apporter des valeurs.
Justement, donc, j'allais te poser la question. Pourquoi tu penses que ça a marqué toute une génération aussi fortement?
Alors, je saurais pas t'expliquer. Moi, j'ai pas d'explication forte. Je pense vraiment le coup des valeurs dont on parlait tout à l'heure est très important parce que moi, ça m'a appris à grandir, quoi.
Et même le dessin, je pense aussi.
Le dynamisme dans le dessin.
La narration.
Et puis, il y avait aussi une sorte de levée de bouclier aussi à l'époque des bien-pensants de nos parents. Moi, mes parents ne s'intéressaient pas du tout à ce que je regardais à la télé, mais ils étaient pas récalcitrants. Mais par contre, je me rappelle de beaucoup de parents de mes copains et copines. Et
on peut se souvenir de Ségolène Royal aussi.
Voilà, les fameuses japonaiserie de Ségolène Royal. À tort ou à raison, hein, je ne suis pas en train de discuter de ça. Je dis juste que je pense en effet que la vision des parents de l'époque qui n'avaient absolument aucune culture de ça parce que ce n'était pas la leur, c'est, tout simplement c'était arrivé plus tard, fait qu'ils ne comprenaient pas forcément les mêmes choses que ce que nous on voyait. Je ne critique vraiment pas, hein, parce que je pense que si j'avais été parent et que j'avais vu mon fils de 7-8 ans regarder des explosions de crâne de cannes de survivants, je me serais inquiété. Mais en même temps, on ne voyait pas la même chose que les parents. On ne voyait pas la violence au même titre. Bien sûr, il y avait du sang, il y avait des combats. Mais ce n'était pas ça. En fait, les combats étaient pour nous une manière de voir nos héros tomber et se relever. Et trouver toujours toujours la force de se relever. Ça a été vachement formateur pour des enfants qu'on était. On était souvent en plus en petits groupes à l'école, tu vois. On en discutait dans les cours de récré.
Exactement.
Et ça, ça nous aidait à nous forger, quoi, à nous forger un caractère, à dire putain, ils ont raison les chevaliers du zodiaque, même si c'est un dessin animé, même si ouais, il faut pas s'arrêter à la première pichenette. Il faut se relever, il faut continuer. Et la vie, elle est faite d'échecs. Mais voilà, il faut continuer à se battre pour réussir plus tard. Et ces valeurs-là, je pense qu'elles passaient un petit peu sous silence pour la génération du dessus. Et nous, on les comprend beaucoup mieux aujourd'hui parce que justement, on a été bercés avec ça et on comprend beaucoup plus les dessins animés de nos enfants.
Ouais, moi, je fais souvent aussi le parallèle avec les jeux vidéo qui sont souvent décriés et c'est un peu le même schéma.
Oui, tout à fait. Ouais. Jeux vidéo, je rajouterais même, pour faire plaisir à mon co-scénariste sur Senseiya, Arnaud Dolan, les jeux de rôle qui avaient très très mauvaise réputation. On s'imaginait tous que, enfin, ceux qui n'avaient jamais touché aux jeux de rôle s'imaginaient qu'il fallait être satanique pour faire des jeux de rôle, mais pas du tout. Les jeux de rôle, c'est même totalement utilisé, c'est même banalisé dans des grosses entreprises où on essaie de mettre les gens d'une entreprise dans une situation qui n'est pas du tout la leur, qui est avec un comportement qui n'est pas du tout le leur classiquement. C'est du jeu de rôle. Et ça n'est que ça, du jeu de rôle. C'est jouer un personnage qui n'est pas vous-même et pouvoir imaginer ce que tu peux faire avec. Et pour beaucoup de gens, c'était beaucoup ce qu'on appellerait des geeks ou des otaku aujourd'hui qui faisaient ce genre de choses. Mais ça les a aidés d'un point de vue social, d'un point de vue... mon scénariste était quelqu'un qui n'était pas forcément une vie sociale très très développée, à part justement son jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est extraordinaire dans la vie de tous les jours. Il est délégué du personnel, il a plein de casquettes différentes, il a une vie sociale vraiment très très riche. Et il te dirait, s'il était à ma place, que le jeu de rôle lui a apporté tout ça. Alors ses parents, lui, ne considéraient pas qu'il faisait des rites sataniques. Mais il s'était intéressé, je m'en rappelle, il m'avait expliqué que son papa, un jour, lui avait dit « Bon, écoute, je ne sais pas ce que tu fais. Je sais pas ce que c'est, tes jeux de rôle, mais plutôt que te dire ça m'inquiète, c'est pas bien, machin, ça, je vais jouer avec toi. Je vais faire une partie avec toi, comme ça tu me montres ce qui te plaît. » Il avait, je crois, pas du tout apprécié l'exercice, mais il avait vu ce qui plaisait à son fils. Et ça, c'était pas forcément quelque chose qui se faisait énormément à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme tu disais, le fait qu'on est baigné avec les jeux vidéo, avec les jeux de rôle, les animés, fait qu'on se projette plus facilement dans la tête de nos enfants qui regardent ça aujourd'hui.
Alors on va s'arrêter quand même un petit peu sur Senseiya. Donc vous avez décidé avec Arnaud de construire la série, la reprise en 5 volumes, c'est ça ?
5 volumes, ouais. L'idée c'était en fait de profiter d'un volume pour mettre un coup de projecteur sur un des 5 chevaliers de bronze. Donc y a 5 chevaliers de bronze, donc il y aura 5 volumes. Voilà, mais c'est une histoire qui est inédite, qui respecte un cadre particulier, parce que quand on travaille sur une licence qui existe, eh bien on est obligé de respecter un cadre précis. J'aime pas parler de contrainte, parce que contrainte c'est un peu péjoratif. Je préfère parler de cadre, qui permet comme ça de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Senseiya est un peu particulier parce que c'est une licence où il y a plusieurs ayants droit. Il y a Maître Kurumada qui a créé le manga, et donc tout ce qui est dans le manga appartient à Maître Kurumada. Nous avons signé avec lui, donc nous pouvons exploiter tout ce qu'il a créé à partir de ce manga-là, design compris. Mais en revanche, tout ce qui a été créé pour la version animée, celle que nous avons eue en premier, comme par exemple les premières armures, les couleurs de vêtements, ou même des fois des épisodes qui étaient créés pour allonger un petit peu, pour donner un petit peu plus de temps au dessinateur pour avancer sur son manga. Et toutes ces choses-là, on n'y a pas accès parce que ce n'est pas les mêmes droits. Donc il faut arriver, quand on fait ce projet-là, à jouer un petit jeu d'équilibriste entre la fidélité à 100% à Maître Kurumada et en même temps garder quand même des codes de couleurs, de manière de coloriser, de manière de rendre dynamique les choses, pour que pour les gens qui n'ont pas un bac plus 18 en Senseiya et qui ne connaissent pas l'œuvre de Kurumada papier, puissent au moins retrouver leur Madeleine de Proust du Club Dorothée, quoi.
Ouais, donc vous êtes plus proche du manga que de l'anime.
On est obligatoirement plus proche scénaristiquement et visuellement en termes de design du manga. Alors, c'est pas qu'on est plus proche, c'est qu'on est fidèle. Et par contre, au niveau colorisation et au niveau dynamique, mise en page aussi, je pense, ça. Tu refermes notre album, en disant que ouais, j'ai eu l'impression d'avoir regardé un épisode du Club d'eau, et vivement mercredi prochain. Et ça, c'est notre petite fierté parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire aussi. On parlait du public cible tout à l'heure, c'est bien de découvrir faire découvrir ça à une jeune génération. C'est vrai aussi que c'est très très important, on le voit quand il y a des reprises, il faut pas du tout se mettre à dos l'ancienne génération. On voit sur les Star Wars, on voit sur plein de trucs qui reviennent
aujourd'hui. Chasse gardée,
ouais. Et même Senseiya, tous les trucs qui sont faits aujourd'hui sur Senseiya sont pas tous appréciés à plus ou moins juste titre, je ne sais pas, mais ils sont pas tous appréciés par la communauté des fans de la première heure. Donc il faut pas du tout trahir, il faut donner vraiment aux fans de la première heure cette flamme, cette passion qui les animait, tout en apportant des petites choses nouvelles, personnelles.
Là, je suis en train de feuilleter devant moi le tome 2 de Saint Seiya, et on voit bien l'importance des couleurs.
Oui, alors ça a été c'est très important, c'est très sympa que tu parles des couleurs, parce que quand on a attaqué le projet Albator, au tout début de la collection Classics, on avait en face de nous Akita Shoten, donc c'est l'éditeur papier japonais, comme je t'avais parlé, de Maître Matsumoto. Et on s'est rendu compte, quand on a discuté de ce qu'on voulait faire pour Albator, que Akita Shoten avait tendance à nous amener vers le terrain du manga, en fait. Parce que comme ils voulaient le sortir chez eux, ils se sont dit, bah ouais, c'est peut-être plus simple si c'est en format manga. Pour nous, ça marchera mieux, etc. Et on a tenu le discours avec Christelle Hulens, hein, qu'il faut vraiment citer. Les éditions Kana sont... Non, tu es en train d'interviewer un auteur, mais un auteur, il n'est pas tout seul, c'est une équipe. Hein. C'est un éditeur qui va avec. Et toutes les forces vives de l'édition, que ce soit à la tête avec Christelle Hulens qui va au contact des auteurs japonais négocier les contrats, jusqu'au directeur éditorial, au marketing, à la presse, voilà la preuve avec nous là. Et tout le monde est important dans la maison d'édition et tout le monde a tiré vraiment dans le même sens sur Albator et sur Saint Seiya et sur Goldorak aussi. Et donc ouais, on a vraiment défendu le format franco-belge en expliquant que pour nous en France, on connaissait, comme je te le disais tout à l'heure, les Chevaliers du Zodiac avant Saint Seiya, et que si on prenait le risque de le faire en manga, d'abord, moi je pense que j'ai rien à leur apporter en manga. Ils ont 15 Jiro Malkié dans chaque doigt, les mangaka au Japon, ils ont leur code, je pense que c'est difficile.
Mais c'est bien parce que ça permet une autre proposition.
Exactement, et on leur a dit, par contre, laissez-nous le format franco-belge. Vous allez voir, le format franco-belge, on le maîtrise, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ou peu. Ce sera une vraie valeur ajoutée par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. On a tenté le coup, quoi. Et pour ça, c'était le point de vue purement artistique, on va dire, esthétique. Mais après, le deuxième argument, c'était un argument éditorial. Et ça parlait bien à l'éditeur Akita Shoten quand on leur a dit, mais toute question de public cible, vous le savez, quoi. Et là, le public cible, c'est les 30-40 ans. Les 30-40 ans, ils ne savaient pas ce que c'était le manga dans les années 80. Le manga est arrivé dans les années 90. Le mot même de manga est arrivé dans les années 90. Donc nous, on ne savait pas du tout qu'il y avait ça à la base. Donc c'était très important de leur donner quelque chose qui leur rappelle ce qu'ils avaient à l'époque. Les BD qu'ils avaient à l'époque étaient des BD franco-belges. Il n'y avait pas du tout de manga. Il y avait très peu de comics. Donc, les barrières des familles de BD étaient très, très... Vraiment, il y avait des murs entre chaque type de BD. Et les souvenirs qu'ils auraient de ces séries-là étaient des souvenirs télévisuels, et donc des souvenirs hauts en couleur. Il fallait donner cette couleur-là. Donc, on a défendu ça. Quand l'argument éditorial est passé, ils ont dit, bon, OK, voyons. On va voir. Donc, je te cache pas qu'on avait un petit peu le stress quand on a envoyé les premières planches et quand on a eu les retours, ils ont dit, oh, c'est super beau, quoi. C'est super beau. On a l'impression d'un artbook. C'est magnifique, quoi. Et alors, c'est des contraintes totalement différentes du manga, de travailler sur du franco-belge, notamment en termes de cliffhanger, de fin de page. J'ai évidemment beaucoup moins de pages que dans le manga, donc je peux pas me permettre des attaques qui envoient du bois, tu vois, ce qu'on appelle les pages waouh entre nous, où tu as une attaque qui prend la double page. C'est plus possible, quoi, parce que sinon tu bouffes beaucoup de pages de ton album sans raconter grand chose. Donc, c'est vraiment un exercice différent du manga, mais c'est quelque chose d'une vraie valeur ajoutée qu'on a pu apporter aux Japonais et qu'ils n'avaient pas chez eux. Et vraiment, on est très très fiers d'avoir insisté ce jour-là pour que ce soit du franco-belge. Et je pense qu'au-delà de ça, on aurait vraiment perdu. Moi, je le vois en dédicace, hein, quand je demande un peu aux gens, si on avait fait un manga, on aurait perdu beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde.
Et les trois prochains tomes, ils sont déjà écrits ?
Ils sont écrits dans les grandes lignes, c'est-à-dire on sait avec Arnaud où on veut aller, quels sont les tenants et les aboutissants principalement de l'antagoniste. C'est lui, c'est son plan qui rythme en fait les 5 albums. Donc on sait où on doit aller. On a déjà tout montré au Japon de manière un peu macroscopique, parce que comme c'est fortement lié à leur histoire à eux, c'est ni une préquelle ni une séquelle, en fait, une interquelle, quoi. C'est un Rogue One de Star Wars, tu vois. Donc ça se place un coup avant la bataille des 12 maisons, un coup après la bataille des 12 maisons que tout le monde connaît, etc.
Mais vous leur envoyez des crayonnés,
on envoie d'abord un scénario global, ils font des commentaires dessus, et quand le scénario global est accepté, on commence à travailler scène par scène avec Arnaud. On écrit les scènes, mais on le garde pour nous. On construit des storyboards, donc les pages un peu crayonnées très rapidement. Voilà,
c'est pas des storyboards très évolués.
C'est des storyboards quand même pas trop mal. Ouais. Les dessins, il y en a beaucoup. Je prends la table numérique pour les décalquer parce qu'ils sont quasiment finalisés.
Ouais, quand même.
Ouais, ouais. Parce que sinon, ils aiment bien, les Japonais, ils aiment bien bosser en storyboard, puis après voir la version crayonnée et encore après la version colorisée. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup d'étapes et puis ça m'arrangeait pas trop dans ma manière de travailler. Donc, du coup, j'aurais dit, écoutez, si on pouvait réunir le storyboard et le crayonné, c'est pas mal. Donc, je fais des storyboards qui sont presque des crayonnés, ouais. Et donc ça leur a beaucoup plu, mais ils valident cette partie-là. C'est à ce moment-là aussi qu'on montre les dialogues quasi définitifs. Et il y a beaucoup de remarques là. C'est là que vraiment le storyboard, c'est là où il y a le plus de discussions avec le Japon, où il y a le plus d'échanges pour dire ouais non ça, on peut pas le dire comme ça ou voilà.
Parce qu'on n'a pas les mêmes codes, les mêmes.
On n'a pas les mêmes façons de parler. Culture, on n'a pas ouais. Et puis il y a des sujets qui nous paraissent nous totalement anodins et qui sont importants pour eux, et d'autres où on a bataillé pendant 3 heures et qui en fait pour eux auraient été pour le coup anodins. Sur le tome 2, puisque tu parlais du tome 2, on traite de mais vraiment en filigrane, hein, c'est pas du tout le cœur de l'album, mais on traite un petit peu de la position de la femme chevalier au sein du sanctuaire, avec, tu sais, le fait de porter des masques et tout. Et ça a été un sujet un petit peu... pas tendu, mais voilà, il fallait fallait trouver vraiment les bons mots pour bien l'aborder dans la société d'aujourd'hui par rapport à la société d'il y a 40 ans qui n'était pas la même. Et tant mieux d'avoir eu ce genre de discussion. Moi, je te cache pas que faire un projet comme ça, c'est la collaboration avec le Japon qui m'intéresse, quoi. Dans la partie créative, évidemment, après c'est l'accueil du public, mais dans la partie créative, c'est collaborer avec l'auteur original. Moi, j'ai grandi avec ces animés, j'ai grandi avec ces mangas, et je rêve de pouvoir discuter, de confronter mes idées avec les siennes. On se doit d'être le plus respectueux de son œuvre, et donc dans la continuité de son œuvre. Donc voilà, on parlait de cadre tout à l'heure, il y avait ces contraintes, mais à l'intérieur de ce cadre-là, on sait aussi quelles sont nos libertés, et ça nous fait plaisir d'aller discuter de plein de choses avec l'auteur pour voir qu'est-ce qu'il aurait imaginé, qu'est-ce qu'il aurait voulu aujourd'hui qu'on gère peut-être différemment de ce qu'il aurait géré il y a 40 ans. C'est un exercice, mais c'est un exercice passionnant qui est très exaltant pour nous. J'en parle beaucoup là. Si vous avez la possibilité, enfin, si vous êtes fan de Saint Seiya et que vous écoutez ce podcast, il y a deux versions qui existent, hein, pour chaque tome. Il y a la version classique, on va dire vraiment grand public, pour les gens qui ont connu ça au Club Dorothée, qui ont grandi avec et qui se souviennent des météores de Pégase et de la colère du dragon. Les attaques sont citées d'ailleurs justement en français, comme elles le sont dans le dessin animé. Par contre, il y a une autre version, qui est la version collector, qui est plus grande en termes de taille, donc ça permet quelque chose de plus immersif dans l'album. Les cases sont plus grandes, comme elles sont plutôt fournies, c'est bien de les avoir un peu plus grandes. Et par contre, il y a 24 pages rajoutées où on vous parle exactement de toute la collaboration avec le Japon, de comment est-ce qu'on a choisi, pourquoi on a fait tel choix artistique, scénaristique, etc. Des recherches graphiques de personnages, parce que évidemment, comme il y a beaucoup de personnages nouveaux et que c'est une histoire inédite, il y a de la recherche graphique à l'intérieur. Et donc tout ça, c'est très très important. Moi, j'adore j'adore le partager avec les fans, quoi. C'est un petit moment, on vous invite dans le backstage, quoi, pour vous parler comment on collabore avec le Japon. Il y a plein de choses à raconter. 24 pages, ça suffirait pas. Il faudrait que je rajoute un devant le 24, mais ça, l'éditeur, ça ferait peut-être un petit peu difficile. Et ça, c'est vraiment l'édition collector, c'est vraiment dirigé fan, quoi. Si t'es vraiment fan des chevaliers que tu connais bien, et les chevaliers zodiac de la télé et le Saint Seiya de Kurumada, là vraiment la version collector, elle est pour vous. Les attaques sont prononcées en japonais, donc dans la version vraiment originale. Ça paraît pas grand chose, mais pour les fans hardcore, ils aiment beaucoup ce genre de choses. Et puis rentrer dans les coulisses de fabrication, c'est quelque chose de très chouette.
Mais même pour les nouveaux lecteurs, les primo lecteurs,
j'espère. Après, elle est limitée, il y a que 15 000 exemplaires, je crois, des collectors. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront retirés plus tard, mais donc voilà, il y a quand même la course aux collectors quand les albums sortent. Il faut aussi que les classiques vivent bien, mais oui, moi j'aime beaucoup en fait les films qui me plaisent énormément. J'ai tendance à regarder et prendre des DVD avec les bonus pour regarder les bonus, écouter le réalisateur, voir les difficultés qu'il a eues pendant le tournage, etc. Moi, je trouve ça passionnant en fait de rentrer, peut-être parce que c'est mon métier, mais je trouve ça passionnant de rentrer comme ça dans l'univers créatif, les arcanes de la création, quoi. Parce que voilà, on claque pas des doigts et ça y est, c'est apparu sur le papier. Il y a des heures, des jours, des semaines de recherche. Moi,
c'est pour ça que je fais aussi ce podcast.
Non-stop, quoi. Non-stop. Et je te remercie de mettre un coup de projo là-dessus, parce que en fait, on se rend pas compte, mais c'est un travail de tous les instants. Il y a des fois où j'ai les yeux qui partent dans le vague à la maison, où ma femme me parle, mais elle me dit, tu écoutes pas ce que je te raconte. Ben non, parce que j'ai switché et je suis en train de réfléchir à comment je vais agencer la scène qui va arriver, parce que je me rends compte que la case que j'avais prévue, eh ben, elle va pas être efficace, donc il va falloir que j'en trouve une autre. Et on est tout le temps dans cette réflexion-là, et le partager, alors peut-être pas dans ce domaine-là, mais partager les réflexions, on va dire macroscopiques, et surtout la collaboration avec le Japon, je trouve que c'est super intéressant, quoi.
Et vous travaillez sur quelle cadence de sortie pour Saint Seiya ?
On essaye de tenir un par an. On essaye parce que c'est un sacré challenge. Pour te donner une idée, on va quantifier, parce que je l'ai quantifié là. J'ai passé à peu près un an et demi à réaliser le premier, plus 6 mois d'avant de pré-production, le fameux cadre dont on nous avait demandé, avec les histoires de droits, de respecter une fidélité à l'œuvre de Masami Kurumada et pas aller sur la version animée, etc. Donc ça a été un petit peu long à mettre en place, de créer les personnages pour avoir la charte graphique et tout. Ça a pris 6 mois. Et après, pour la réalisation du tome 1, c'était un an et demi. C'est quand même beaucoup. Il était un petit peu plus long que le tome 2. Le tome 2, j'ai réussi à diminuer à 1 an et 3 mois. Et maintenant, comme ça devrait théoriquement sortir tous les ans, ça veut dire qu'il va falloir que je réduise à un an parce que j'avais absolument plus de marge. J'avais bouffé toute ma marge pour le tome 2. Donc maintenant, il va falloir qu'on sorte le tome 3.
Et là, vous avez attaqué le tome 3 avec Arnaud déjà ?
Oui, on a attaqué le scénario est quasiment tout écrit. Donc la partie d'Arnaud est quasiment finie. Il va revenir après pour le... En fait, on travaille ensemble sur le scénar, sur les grandes lignes. Ensuite, on travaille sur le découpage par scène et les dialogues. Et après, il me laisse la main mise. Je fais le storyboard et je me rends beaucoup compte qu'en fait, le storyboard est générateur de changement d'histoire, en fait, parce que tu te rends compte que... Enfin, ou peut-être parce que je suis pas un très bon auteur de BD, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, je me rends compte que quand on veut passer la version écrite à une version dessinée, les bons cliffhangers arrivent pas au bon endroit. Voilà, la case qu'on aurait voulu bien grosse parce qu'il y a une super révélation, elle arrive à un endroit qui est pas très chouette sur l'image. Il faut faire en sorte aussi que quand on ouvre une double page dans la BD, c'est pas un film, hein. Le film, les images, tu les prends les unes après les autres. Tu vois pas ce qui se passe 5 minutes après. Alors que dans la BD, quand tu ouvres et que tu as une super belle image à droite et que tu as la page de gauche à lire, tu la lis pas la page de gauche, tu vas voir la page de droite. Donc il y a tout ça, c'est pas grand-chose, mais il y a toute une organisation à faire que tu projettes pas forcément quand tu écris le texte. Donc il y a beaucoup de réorganisation, de choses comme ça, qui font que ça a un impact sur le scénario. Et donc derrière, quand tu récupères le storyboard, Arnaud, des fois, il me dit... On avait écrit ça ? Je fais, non, pas tout à fait.
Vous faites beaucoup d'allers-retours avec Arnaud ?
On en fait quelques-uns, ouais. On en fait quelques-uns, mais ça marche bien. Je pense en 3 ou 4, on arrive à bien tout faire. Et puis après, je mets des textes un peu témoins dans les bulles. Je lui envoie. Lui, il l'écrit de manière un petit peu plus littéraire parce que c'est son kiff absolu, quoi. Et puis il est très fort pour ça. Et derrière, on en rediscute. Ah ouais, je trouve que là, on met trop l'accent sur ceci, pas assez sur cela, etc. Et voilà. Mais en 3-4 allers-retours, d'habitude, ça se fait bien. Puis comme on est amis de très longue date, on se connaît depuis 28 ans, on a fait une école d'ingénieurs ensemble. Lui est resté dans le monde de l'ingénierie, pas moi. On se connaît très très bien. Il sait ce que j'aime dessiner. Je sais ce qu'il aime écrire. Et donc, à demi-mot, on se comprend assez souvent. Donc voilà, ça aide beaucoup. Cette amitié-là, elle aide beaucoup pour être efficace sur l'album.
Ouais, écoutez, merci pour cet échange. On arrive au terme de cette interview. Je vais vous laisser aller travailler sur le tome 3. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà, je raccroche avec toi et puis c'est parti, quoi.
Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt.
Avec plaisir. Merci à toi.
Voilà, on espère que vous avez aimé cette émission 374e du nom. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.